quelqu'un efface la buée sur la vitre du boulanger. Les arbres sont tous détrempés, déjà fument les cheminées au point du jour. Je vois ma rose s'éveiller, ses yeux s'ouvrent sur l'oreiller, il regarde la fin d'un rêve, et puis ma rose, elle se lève au point du jour. Elle jette bas sa chemise, elle est nue comme une cerise, un rayon de soleil l'inonde, elle est la plus belle du monde au point du jour. La radio donne des nouvelles, quelque part la vie n'est pas belle, des bombes crient dans le lointain, défense de voir le matin au coin du jour. Mon bonheur me fait un peu honte, tandis que dans ma chambre monte la bonne odeur de café noir. Encore un jour, la vie, l'espoir, le point du jour.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître, la radio sans Dieu ni maître. D'ici quelques petites secondes, vous aurez le plaisir d'écouter l'émission Civis Pacem. Voilà. À bientôt et soyez toujours fidèles à Radio Libertaire 89.4. Merci de votre écoute.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. «
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Le 12 février 2024, une importante réunion s'est tenue à la Bourse du Travail de Paris pour dénoncer les ventes d'armes à l'armée israélienne, armée qui mène depuis plusieurs mois une guerre génocidaire à Gaza. La salle Jean Jaurès de la Bourse du Travail était archi-comble pour écouter les orateurs. Parmi eux, il y avait notre ami Patrice Bouvray de l'Observatoire des armements, venu spécialement de Lyon, qui s'est même étonné du nombre d'auditeurs. Il a souligné que parler du commerce des armes en France comme vous le savez qui est le troisième producteur dans le monde d'armes, était un travail difficile. D'habitude, ces interventions, même à Paris, ne réunissent qu'une quarantaine de personnes, alors que le 12 février 2024, elles étaient au moins 200 présentes dans la salle pour écouter les orateurs et il y en avait même dans les couloirs. Ceci prouve que la situation dramatique des Palestiniens à Gaza a touché de nombreux militants. Nous allons donc entendre dans notre émission les différentes interventions et c'est Laura qui a introduit le débat.
On est désormais entré dans le cinquième mois de la prétendue contre-offensive menée par Israël à Gaza et en Cisjordanie. Nous le savons, il ne s'agit en fait que de la continuation de 75 ans de politique coloniale et génocidaire menée en Palestine au nom du sionisme. Cette guerre qui n'en est pas une, cette destruction systématique de la bande de Gaza et de sa population, ne pourrait pas être menée sans le soutien des grandes puissances occidentales. On sait que si les États-Unis interrompaient les livraisons d'armes, les bombardements s'arrêteraient au bout de 3 jours faute de munitions. Les Palestiniens le savent aussi. Le 16 octobre, plus de 30 syndicats de travailleurs palestiniens ont lancé un appel à la solidarité internationale. End all complicity, stop arming Israel. Donc mettez fin à toute complicité, arrêtez d'armer Israël. L'appel est issu du groupe Workers in Palestine, les travailleurs en Palestine, qui regroupe des syndicats indépendants, des grandes fédérations syndicales et des associations professionnelles basées à la fois à Gaza et en Cisjordanie. On peut avoir tendance à l'oublier, mais les Palestiniens ont eux aussi une société civile qui a la capacité à s'organiser politiquement. Ce sont aussi des travailleurs qui ont leur propre syndicat comme nous. Ils ont la capacité à émettre des revendications et à interpeller les travailleurs et organisations de travailleurs dans le reste du monde. L'appel Stop Arming Israel est une demande claire et précise des Palestiniens eux-mêmes. Leurs revendications, elles sont simples. Ils demandent aux travailleurs et aux syndicats partout dans le monde de refuser de construire des armes destinées à Israël, de refuser de transporter des armes vers Israël, d'adopter des motions en ce sens au sein des syndicats, d'agir contre les entreprises complices du génocide en cours et de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent tout commerce militaire avec Israël. L'appel s'adresse d'abord aux organisations syndicales et plus généralement aux travailleurs du monde entier, mais il n'y a pas besoin d'être syndicaliste pour y répondre. En tant qu'habitants des grandes puissances impériales, nous sommes toutes et tous concernés. On sait que le premier pays exportateur d'armes vers Israël, c'est les États-Unis, avec ensuite l'Allemagne ou l'Angleterre, et on entend souvent que dans ce domaine, la France n'est pas tellement concernée. C'est vrai qu'en termes de volume de vente pure, c'est un marché assez réduit, mais il existe quand même ce marché, et souvent de façon beaucoup plus insidieuse que par des simples livraisons d'armes prêtes à l'emploi. On pense à des caisses d'obus qui arriveraient directement en Israël, mais souvent c'est plus compliqué que ça. Les collaborations militaires entre la France et Israël prennent des formes multiples, souvent opaques. Et pour pouvoir agir contre cette complicité, il nous faut d'abord la comprendre et nous informer. Donc c'est dans ce but qu'on a organisé cette rencontre. Dans un premier temps, Patrice Bouvray, qui est cofondateur de l'Observatoire des armements, va nous donner un aperçu général de la collaboration militaire entre la France et Israël, donc il est à ma droite, ses différentes formes et ses enjeux. Ensuite, Mathieu Rigouste, chercheur en sciences sociales et militant, va nous parler de son travail d'enquête sur le business mondial de la guerre et du contrôle. Et il a notamment enquêté au salon Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des États, où les entreprises israéliennes d'armement et de surveillance font commerce avec les États et les vendeurs d'armes du reste du monde. Enfin, on a aussi Anne Pack, qui est photographe et membre du collectif Active Steals, qui va nous parler d'un cas très concret, celui de l'affaire Exelia, une entreprise française dont les composants ont été retrouvés parmi les débris d'une bombe qui a tué 3 enfants à Gaza en 2014. Elle pourra nous parler de l'enquête qui a été menée sur place et du procès qui est en cours actuellement contre cette entreprise. Et à partir de toutes ces informations, ensuite, je finirai en vous parlant des perspectives d'action concrètes et des outils qu'on met en place avec le collectif Stop Arming Israel France pour répondre de façon active à l'appel des syndicats palestiniens.
Merci Laura et surtout merci d'avoir organisé ce débat, parce qu'effectivement, on est sur un sujet dont on parle très peu, alors qu'il est extrêmement important. L'Observatoire des armements, pour aller très vite, c'est un centre d'expertise indépendant qu'on a créé maintenant, il y a 40 ans, justement pour développer le débat à la fois sur tout ce qui concerne l'industrie d'armement, transfert d'armement, et bien sûr aussi l'élimination des armes nucléaires, avec une focale sur la question des conséquences des essais nucléaires. Donc, et puis on a un travail aussi sur les archives, mais ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Donc par contre, pour préciser aussi les limites de mon intervention, on n'est pas des spécialistes du Moyen-Orient, mais effectivement, on a un début de connaissance, parce que tant c'est opaque, sur les mécanismes de transfert d'armement, de production d'armement, centrés sur la France, pas parce que la France, que les autres pays ne font pas pire ou qu'il y a d'autres choses, mais parce que c'est en France qu'on peut agir pour essayer de faire bouger les lignes. C'est pour ça que notre travail au niveau de l'Observatoire est centré sur la France et que mon intervention aujourd'hui sera centrée aussi sur la France. Donc par rapport à ce sujet de la coopération militaire entre la France et Israël, c'est vrai que nous, ça fait depuis l'opération Plomb durci qu'on pose la question: quelle est la complicité de la France? Et c'est autour de ça qu'on a travaillé à différents niveaux, pour produire à la fois des études, des informations, travailler avec différentes ONG pour qu'il y ait un débat sur cette question-là, une interpellation des parlementaires notamment, et puis surtout pour arriver in fine à ce que cette coopération-là soit suspendue dans un premier temps, pour être réellement arrêtée dans la mesure où, tant qu'Israël ne respecte pas le droit international, ne respecte pas l'intégrité des Palestiniens. Donc c'est, voilà, pour donner un petit peu le cadre. Un autre élément qu'il faut avoir en tête, parce qu'on en parle tellement peu en France, c'est que c'est un secteur extrêmement opaque, que les informations dont on dispose généralement proviennent des États, donc sont objets à la fois d'opacité, mais aussi peuvent être objets de manipulation. Et c'est vrai qu'on le voit tout particulièrement sur Israël et Palestine et la France, où les informations proviennent souvent d'Israël en termes de coopération, parce que pour eux, c'est important de montrer qu'ils ont une coopération avec la France, parce que ça leur permet de montrer qu'ils sont bien intégrés dans le système occidental, alors qu'au niveau français, c'est extrêmement dur de trouver des informations provenant de sources officielles, où là, au contraire, on sent une certaine gêne de la part du gouvernement français d'afficher cette coopération militaire qu'il peut avoir, coopération militaire ou sécuritaire, qu'il peut avoir avec Israël. Donc, je ne remonterai pas sur l'historique, parce que c'est vrai que ça prendrait beaucoup de temps, mais juste signaler quand même que c'est la France qui a été le premier fournisseur d'Israël au moment de sa création de l'État d'Israël en 1948, un rôle de fournisseur qui est allé jusqu'à fournir l'arme nucléaire, à aider Israël à se procurer l'arme nucléaire, à la fabriquer. Donc un rôle extrêmement important qui a duré des années 50 jusqu'en 70, où là, il y a eu un début d'embargo qui a été prononcé, hein, parce que l'embargo ne s'est pas mis en place comme ça par De Gaulle. Il a fallu plusieurs années. Et surtout, la France avait fourni des usines à Israël de fabrication de matériel militaire, notamment de l'aéronautique. Et donc, ce qui permettait, une fois que l'usine est fournie, à Israël de développer, elle aussi, sa propre industrie militaire. Donc, on pourrait développer assez longuement pour voir comment s'est reprise cette coopération militaire, donc essentiellement à partir de Mitterrand, dans les années 80. Donc, le réel embargo a duré à peine une dizaine d'années entre les deux pays. Et c'est sous Mitterrand, donc début des années 80, qu'a recommencé à se mettre en place une coopération. Cette fois, une coopération d'un ordre différent de la première, j'ai envie de dire, dans la mesure où elle était, avec des guillemets, effectivement, elle était gagnant-gagnant, dans la mesure où Israël, bien sûr, avait développé, elle, sa propre industrie militaire, et que la France, sur certains domaines, n'avait pas développé, notamment tout ce qui est les drones, la robotisation, puisque les drones, on en parle aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui date des années 70 au niveau de l'industrie militaire. Parce qu'on est toujours dans des temps longs avec, dans ce domaine-là. Maintenant, on est habitué à des temps extrêmement courts, mais sur le matériel militaire, ça se compte en décennies. Et donc, toute cette industrie de drones qui a été développée par Israël de robotisation, dont on voit les effets à l'œuvre dans les derniers conflits, la France ne s'était pas engagée là-dessus et l'a acquise justement en l'achetant ou en échangeant ces technologies-là avec Israël. Donc, c'est une. Dans la coopération, ce n'est pas une coopération à sens unique, comme on a souvent le mot en tête dans le matériel militaire, où c'est un pays qui aide l'autre. Ça a été la remise en place d'une coopération vraiment à double sens, où les deux pays cherchaient, enfin bon, s'aidaient mutuellement dans le développement de leur matériel militaire. Pour donner quelques données sur les exportations d'armes, parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, on ne vend, depuis l'embargo, on ne vend plus vraiment d'armes, enfin la France, quand je dis nous, la France ne vend plus d'armes terminées, elle vend des morceaux. L'industrie militaire a évolué aussi comme toutes les autres industries, comme l'industrie automobile ou d'autres industries, et il y a un certain nombre de composants qui sont fabriqués plus une pièce entière. Les pays au niveau militaire comme Thales ou comme Dassault assemblent après, mais assemblent le matériel militaire en achetant des composants ailleurs. S'il y a des composants qui sont selon leurs besoins de meilleure qualité ou moins cher, tout simplement, il y a une véritable mondialisation, globalisation de la production de l'armement. Donc c'est pour ça qu'au niveau des chiffres dont on dispose, au niveau des exportations de matériel militaire au sens strict du terme, c'est-à-dire effectivement, il y a une liste de matériel dit militaire qui pour être exporté passe devant une commission interministérielle et par une autorisation du gouvernement. Mais c'est une liste qui ne comporte pas l'ensemble du matériel qui sert à fabriquer des armes. Sur cette liste de matériel, il y a un rapport annuel qui est fait maintenant depuis une vingtaine d'années par le gouvernement, le ministère de la Défense. Les données dont on dispose donc, font que la moyenne annuelle sur les 10 dernières années est de 20 millions d'euros de matériel militaire exporté par la France. On ne dispose d'aucune donnée sur le matériel que la France achète. Ça, par contre, c'est totalement opaque et on ne le sait pas. Mais sur le matériel qui est vendu, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros par an. Alors, suivant les années, pas tout à fait. Voilà. Mais ce qui est en soi, effectivement, très faible, puisque ça représente à peu près même pas 1% du matériel militaire que la France exporte. L'essentiel de son matériel qu'elle exporte étant effectivement tourné, mais y compris vers les pays du Moyen-Orient. Je vous disais 1% pour Israël. Quand on prend l'Arabie Saoudite, c'est 30% du matériel par an, du matériel exporté par la France, qui est vendu en Arabie. Donc on peut avoir l'impression que du coup c'est ridicule. Et c'est là-dessus d'ailleurs que jouent dans les médias ou que jouent les officiels en disant les montants qu'on exporte sont très faibles. Oui, c'est vrai d'un point de vue numérique, d'un point de vue purement financier, mais après c'est le rôle qu'ont ce type de matériel, à quoi il sert, comment il est utilisé, que se jouent les choses. Et ça, on ne dispose pas d'informations. On a des montants financiers, mais on n'a pas le type de matériel de manière précise, on n'a pas de liste de matériel qui est exporté pour les différents pays, pour Israël comme pour les autres pays. Là où on a des informations qui commencent aussi à apparaître sur le matériel militaire depuis une vingtaine d'années, mais sur tout ce qui est composant à double usage, c'est-à-dire tous ces éléments, surtout maintenant à l'heure où l'informatique, l'informatisation, la robotisation est extrêmement développée dans le matériel militaire, sont donc à partir de composants double usage, ce qu'on appelle les composants double usage, civils et militaires. Là, on commence seulement à avoir des données après des bagarres assez longues de la part des ONG pour qu'il y ait de la transparence. Et là, on voit des chiffres nettement plus importants. On a le rapport, on n'a que sur 2021 et sur 2022. Sur 2021, le montant des composants exportés en direction d'Israël sont de 159 millions d'euros par rapport aux 20 millions d'euros de matériel militaire. Donc on voit l'importance prise par ces composants. En 2022, donc la deuxième année où on a des chiffres, le chiffre était moins important, était de 35 millions suivant les années, mais reste nettement plus important que le matériel strictement militaire. Le problème avec ces composants, c'est que le système de contrôle du matériel exporté est beaucoup plus faible. C'est en gros les entreprises qui s'autocontrôlent elles-mêmes par rapport à cette exportation de matériel à partir d'une liste de matériel, à partir d'un système mis en place par l'Union européenne. Et donc, effectivement, on ne peut pas demander aux entreprises d'être dans un contrôle pour éviter que ce matériel qui est vendu serve à commettre des crimes ou des violations des droits humains. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les types de composants, parce que on parlera à partir de composants, justement, qu'on a retrouvés marqués Made in France en Israël. Mais là, pour terminer, parce qu'après, pour ne pas dépasser mon temps, je voudrais revenir sur en quoi ça nous rend, le matériel exporté par la France en Israël, nous rend complices de ce qui se passe. Parce qu'au fil des années, a été mis en place au niveau à la fois national, régional, donc de l'Union européenne, et international, un système théoriquement de contrôle et de limitation des exportations pour éviter qu'elles servent, que ces armes, que ce matériel militaire serve à commettre effectivement des violations du droit de la guerre. Il y a un certain nombre de critères comme ça qui ont été mis en place. Donc au niveau national, ce qu'il faut savoir, c'est que toute production, toute vente de matériel militaire est interdite, sauf autorisation par le gouvernement. Donc c'est là déjà que ça fait de nous, puisque c'est le gouvernement français, c'est la France qui vend des armes, et c'est pas Thales ou Dassault, pour citer deux des principales entreprises. Donc c'est chacun d'entre nous. Donc à ce terme-là, ça doit déjà nous interpeller et nous conduire effectivement à manifester notre refus qu'en notre nom, on vend du matériel utilisé par l'armée israélienne. Ça, c'est le premier niveau au niveau national. Au niveau européen, de l'Union européenne, a été mis en place aussi un système de contrôle qui a été mis en place suite le premier conflit contre la guerre du Golfe. On s'était aperçu que l'Irak avait beaucoup de matériel européen et notamment français. C'est à la suite de ça qu'a été mis en place un contrôle au niveau européen pour justement limiter et éviter que se reproduise une situation telle qui s'était produite, que l'Irak se retrouve surarmé avec du matériel et que la France envoie des soldats se battre contre du matériel et se retrouver face à du matériel qu'on leur avait vendu. Ce contrôle-là, non plus, repose aussi sur l'autocontrôle par les entreprises et par les États. Il n'y a pas de système indépendant qui permettrait après de poursuivre réellement les entreprises qui vendent ce matériel. Et le troisième niveau qui a été mis en place, aussi suite à des campagnes menées par les ONG au niveau international, c'est un traité sur le commerce des armes. C'est un traité qui repose sur la régulation, là encore, les entreprises, les États, avant de vendre du matériel, doivent vérifier que celui-ci ne sera pas utilisé pour violer les droits humains. Là encore, on se retrouve confronté à la même problématique. Ce sont les États qui vérifient ça pour eux-mêmes. Il n'y a pas été mis en place un système indépendant, lié de l'ONU par exemple, qui vérifierait ces exportations-là. et donc qui permettrait après de poursuivre les États qui violent ce traité-là. Donc là, on est confronté toujours un peu à ce même problème, même si au niveau du droit international et des traités, les limitations existent. Et c'est en ça qu'elles font de nous des complices quand les États vendent du matériel à Israël, puisque même les conventions de Genève, qui définissent le droit à la guerre, prévoient qu'il ne faut pas, bien sûr, pour un État, outrepasser ce droit international, mais il ne doit pas contribuer non plus à ce qu'un autre État, il ne doit pas aider un autre État à commettre aussi ces violations des droits humains. Donc, là encore, l'État français, quand il exporte du matériel à Israël, a une responsabilité. Et ce n'est pas simplement sur le matériel direct, bien évidemment. Les composants doivent rentrer dans cette prudence ou dans ce refus d'exporter qui devrait être mis en place, ce qui n'est pas le cas. Surtout que cette coopération, elle prend multiforme. Il y a bien sûr les ventes directes de matériel ou de composants. Il y a aussi des entreprises, des co-entreprises qui sont créées entre Israël et la France, pour prendre que ces deux cas. Ça se retrouve dans d'autres pays. Il y a même une entité israélienne, un kibbutz notamment, qui a acheté une entreprise française, donc qui en possède le capital de cette entreprise, une entreprise qui fabrique des blindés. Donc ça aussi, c'est des choses qui ne devraient pas avoir eu lieu, qui auraient dû être interdites, et qui ne l'ont pas été, sur lequel le gouvernement français n'a pas joué son rôle, n'a pas respecté ses propres engagements.
Vous venez d'entendre une chanson de Naï Barkouti. Naï Barkouti a chanté « Maman chante dans le vent », une chanson composée au mois d'octobre 2023 quand le calvaire des Palestiniens de Gaza avait déjà commencé. Sur son clip sur YouTube, que vous pouvez revoir, la chanson est accompagnée d'images dramatiques de la souffrance du peuple de Gaza. Alors je vous rappelle que dans cette émission, nous écoutons les orateurs de la réunion Stop Armes Israël-France, réunion qui s'est tenue le 12 février 2024 dans une salle Jean Jaurès de la Bourse du Travail de Paris, une salle bondée. Et vous avez entendu d'abord Patrice Bouvray de l'Observatoire des armements à Lyon. Et nous allons écouter maintenant l'intervention de la photographe Anne Pack, qui a fait de nombreux séjours à Gaza. Ouais.
Bonsoir à tout le monde. Merci Stop Arming Israël pour avoir organisé cette soirée qui est très importante, mais aussi pour votre travail sur le terrain. Donc moi, je suis photographe. J'ai habité en Palestine pendant plusieurs années. Et j'étais à Gaza notamment à de nombreuses reprises, mais notamment en 2014 pendant les bombardements israéliens. Donc moi, je vais vous parler d'un cas très concret. On va vraiment aller plus sur le terrain. Je rappelle que 2014, c'était 151 jours de bombardement, 2200 Palestiniens, Palestiniennes qui ont été tués, la plupart des civils, dont plus de 500 enfants. Et ce qui a un peu caractérisé aussi cette offensive, c'était du ciblage sur des maisons résidentielles, donc avec des familles à l'intérieur. Je voudrais aussi insister que Gaza, c'est un laboratoire pour les industries d'armement, notamment israéliennes. Bien sûr, c'est combat proven après, et on les retrouve dans les salons, comme Mathieu l'a dit, et il faut vraiment se pencher donc sur cette question de l'industrie militaire pour comprendre ce qui se passe. Alors moi, j'étais sur place et dans les hôpitaux, dans les morgues, on voyait vraiment arriver des familles entières. Et c'était extrêmement choquant, bien sûr. Il y a eu cette statistique qui est sortie après des Nations Unies, qui est que 142 familles avaient perdu 3 membres ou plus. Donc il y a des familles qui ont été vraiment oblitérées sur plusieurs générations. Et donc j'ai décidé de revenir à Gaza après l'offensive pour aller retrouver certaines de ces familles. Et j'ai développé avec une journaliste polonaise palestinienne, Ala Kandil, ce projet multimédia qui est en ligne, que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Obliterated Families. Voilà, faire en sorte que ces familles ne soient pas que des statistiques. J'ai visité 53 familles, donc je suis retournée à Gaza à plusieurs reprises, donc c'est vraiment un énorme travail qui a été fait. Notamment grâce à une association de défense des droits humains, une organisation de défense des droits humains qui s'appelle Amezan, qui fait un travail incroyable sur place. Alors, et c'est un projet, je précise donc, multimédia. Alors, parmi ces familles, il y avait la famille Chouébar, dont on va parler ce soir. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Je suis désolée parce que je pense qu'une partie de la salle ne pourra pas voir, mais je pense que c'est quand même important d'avoir ces images qui vont commencer aux funérailles de la famille Chouébar. Voilà, donc la question de Wissam, donc le père de Afnan, qui m'a posé quand il a compris que j'étais française, c'est comment ça se fait que la France tue nos enfants. Donc évidemment, c'était extrêmement choquant. Et puis après, il m'a montré cette petite pièce. Et puis à partir de là, Al-Mezan s'est saisi du cas, a fait remonter ça à l'ACAT en France, et une plainte a été déposée en France, qui est évidemment très très significative, mais je vais revenir là-dessus. J'aimerais répéter les noms de ces enfants. Donc Afnan, 8 ans, fille de Wissam et Kifa, et elle a été tuée avec ses deux cousins, Jihad, 10 ans, Wassim, 9 ans. Les funérailles, là, ça a été pour moi une des journées les plus marquantes que j'ai vécues là pendant cette offensive. Et ce que vous avez vu là, dans cette petite allée où il y avait toutes ces femmes et ces enfants qui criaient, j'ai jamais vu autant de souffrance dans un petit périmètre. C'était vraiment quelque chose qui était saisissant et qui me quitte pas depuis. Voilà, donc je voulais continuer aussi le déroulé avec quelques photos, si tu peux lancer la première photo. Donc la pièce centrale en fait de l'affaire en France, hein, c'est un capteur sensoriel à effet Hall, c'est un capteur de position. Alors c'est pas du tout une petite pièce dans le missile, c'est en fait une pièce centrale qui dirige le missile, qui dirige sa direction. Alors sûrement, donc il y a des experts militaires bien sûr qui sont penchés dessus, et sûrement c'est un missile Spike ou Mini Spike qui est fabriqué par Rafael Défense, donc une entreprise israélienne. Si on peut, tu peux avancer. Donc là on voit les trois enfants, la photo des trois enfants parmi les fragments. Si tu peux passer à la photo suivante. Donc là, c'est une photo de Hodaï. Alors évidemment, il faut parler des enfants qui ont été tués, mais il faut aussi parler des survivants, bien sûr. Donc Hodaï, il a encore des shrapnels, des débris dans son corps. Il a fait une hémorragie interne. Il a une partie de ses intestins ont dû être enlevés. Et puis surtout, Hodaï, il porte une énorme responsabilité parce que c'est lui qui a dit un peu à ses cousins, à Afnan et Jihad et Wassim, on va aller nourrir les oiseaux sur le toit. Et il a tout vu. En fait, il a pas perdu connaissance lors de l'attaque. Photo suivante. Donc là, il s'agit de Bassel, qui lui a été extrêmement très très grièvement blessé. Bon, il a failli vraiment mourir. Il a dû subir plusieurs chirurgies. Il a pu sortir de Gaza, donc il est allé en Turquie, en Allemagne. Il a encore des éclats aussi dans son corps, notamment dans la tête. Et c'est trop dangereux en fait de faire une opération pour lui enlever ça. Il est sorti bien sûr très très traumatisé et il va donc avoir des dommages à vie. Alors, si on peut avancer. Voilà, donc là, ça c'est Bassel, l'été dernier, à Paris. La famille Chouébar est venue à Paris pour témoigner. Donc je les ai rencontrés et un peu suivis lors de leur voyage. Donc évidemment, j'étais très très émue de les voir à Paris, convoqués donc par la juge d'instruction à la suite de leur plainte en 2016 devant la justice française auprès du pôle français spécialisé dans les crimes de guerre du tribunal de grande instance de Paris. Donc la plainte, c'est contre Excelia Technologies pour complicité de crimes de guerre et homicide involontaire. Voilà, et la famille est représentée par le cabinet Ancil avocat et notamment par Joseph Bréham, et on a la chance d'avoir Clara qui est là ce soir, donc elle vous fera un petit point juridique après mon intervention. Bon, ce qu'il faut savoir, il y a évidemment beaucoup de choses qui pourraient être dites sur ce cas. Déjà, je voudrais dire qu'il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées par Al-Mezan, Betselem et aussi la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par rapport au cas de la famille Chouébar. Il n'y avait pas de militants dans la maison. Donc c'est pas une cible militaire d'avoir pris pour cible cette maison. Il y avait aussi une vue tout à fait dégagée le 17 juillet. Il y avait c'était très très dégagé. Donc Israël ne peut pas dire on n'a pas pu voir qui était sur le toit. Ça paraît vraiment c'est pas possible. Je dois aussi dire que ce capteur, il a été retrouvé dans d'autres cas. Donc il y a d'autres familles concernées, il y a d'autres enfants qui ont été tués par ces mêmes missiles avec ce capteur donc d'une entreprise française. Alors dans la vidéo, il y a Wissam Chouébar qui dit oui, c'est marqué Europe France. En fait, c'était pas marqué Europe, c'était un peu effacé, on voyait que EUR, c'est Eurofarad. Et ça, c'était l'entreprise, en fait, du départ, qui après a été rachetée par Excelia. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à cette affaire qui est quand même assez, je trouve, très très importante, il n'y a pas eu, je pense, vraiment une retombée médiatique à la hauteur, en fait, de l'importance de cette affaire. Alors en 2016, quand il y a eu voilà, le dépôt de plainte, il y a eu ACAT aussi qui a fait un peu du travail de com, il y a eu un dépêche de l'AFP qui a été repris par beaucoup de médias, mais il n'y a pas eu vraiment d'enquête poussée comme on aurait pu s'y attendre. Cet été, il y a eu quelques articles très intéressants de fond, dont notamment un article dans l'Humanité, mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas eu encore assez de bruit autour de cette affaire. Parce que c'est une affaire significative à plusieurs égards. Alors c'est la première fois qu'une entreprise est accusée de complicité pour crime de guerre en France. Alors après, il y a eu l'entreprise Lafarge, vous vous souvenez, pour complicité pour crime contre l'humanité. C'est la seule chance, sûrement pour la famille Chouibar, de se faire entendre dans un tribunal, parce que évidemment, et que ça soit reconnu, en fait, ce qui s'est passé, avec donc ces trois enfants qui ont été tués, pour que ça soit reconnu, pour que ça soit établi dans un tribunal que c'était un crime de guerre. Parce que si ça passe au tribunal français, évidemment, pour établir la complicité de l'entreprise française que c'est un crime de guerre, faudra établir que c'est un crime de guerre. Donc derrière, c'est bien qualifier les faits, et ça serait aussi extrêmement important au niveau de la jurisprudence. La famille ne peut évidemment pas obtenir justice auprès des tribunaux israéliens. On sait très bien, on a eu les précédents de plomb durci, que le système de justice israélien fait partie du système colonial, donc il n'y a absolument aucune justice à en attendre. Il y a eu d'ailleurs quand même pour une requête qui a été faite par Al-Mezan et Adala auprès du système judiciaire israélien. Il n'y a pas d'enquête qui a été ouverte, et en 2020, il y a eu une fin de non-recevoir par l'Israeli la personne qui est chargée en Israël, soi-disant, d'examiner les présumés crimes de l'armée israélienne. C'est évidemment une affaire très significative pour exposer la complicité des industries de l'armement, ou les fabricants de composants qui peuvent avoir un usage militaire, et du gouvernement français qui accepte ces exportations malgré ces engagements internationaux dont on a parlé. Donc ça peut créer un précédent très important. Alors pour conclure, au vu de ce qui s'est passé en 2014, mais aussi en 2012, 2008, 2009, en 2021 à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où l'armée israélienne a utilisé récemment des missiles tirés de drones, ce qui est un peu nouveau et très effrayant. Et bien sûr, au vu du génocide en cours à Gaza, il faut un embargo militaire. C'est aussi un des moyens de lutter contre l'impunité d'Israël. Aucune des familles de 2014 n'a obtenu pour l'instant quelconque justice. Pour en revenir un petit peu à la famille Chouibar, je voulais aussi dire que Kifa et Wissam avaient depuis eu une autre fille qu'ils ont nommée Afnan. Maintenant, sur la situation actuelle, ils ont été déplacés plusieurs fois. Bassel a été de nouveau blessé. Et ils sont en ce moment dans la rue, à Rafah, dans des tentes, dans des conditions terribles. Et bien sûr, je suis très très inquiète pour eux. Je voulais aussi vous dire ce qu'a raconté Kifa à la journaliste de l'Humanité. Perdre un enfant, c'est un grand choc. Longtemps, je n'ai pu ni parler, ni manger, ni me déplacer. J'ai cru devenir folle. Nous souffrons encore, nous y pensons chaque jour. J'entends encore la voix de ma fille. J'ai l'impression qu'elle m'appelle, qu'elle me parle. Nous avons très peur que ça recommence. Et ça recommence. C'est une tragédie qui se perpétue, une Nakba qui se répète, avec la complicité de nos gouvernements et des entreprises liées au business d'armement. Il faut un contrôle citoyen sur ces ventes d'armes, notamment par le Parlement. Alors ce qui se passe évidemment maintenant, ça dépasse de très très loin ce qu'on a vu en 2014. Donc vous vous souvenez du chiffre, hein, 142 familles ont perdu 3 membres ou plus. Là j'ai fait quelques petites recherches. Environ 1550 familles ont perdu plusieurs de leurs membres selon le ministère de la Santé du Hamas. Au moins 312 familles avaient perdu plus de 10 personnes chacune au 23 novembre. Au 23 novembre. Donc depuis, ces chiffres ont encore augmenté. Donc on peut se poser la question, bien sûr, d'à combien de ces cas des familles françaises sont-elles impliquées? Voilà, donc tout cela doit cesser pour la famille Chouéba et pour toutes les autres.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu une autre chanson de Naï Barghouti, artiste palestinienne. Et je vous rappelle que nous écoutons dans cette émission les intervenants invités par le collectif Stop Arm Israël France le 12 février 2024 à la Bourse du Travail de Paris. Après Patrice Bouvray, vous avez entendu la photographe Anne Pack qui nous a parlé de la famille palestinienne Chouéba, endeuillé par la mort de 3 enfants. Ces 3 enfants ont été tués par l'armée israélienne au cours de l'opération Plomb durci et avec une partie du matériel militaire fabriqué en France. Cette famille a porté plainte en France. Il a fallu déjà de très nombreuses années pour que la justice française instruise le dossier. Et c'est l'avocate de cette famille qui a expliqué le parcours juridique de cette plainte.
Donc, je travaille pour le cabinet Ancy, l'avocat. Je suis juriste au sein du cabinet donc de Maître Bréham. Et depuis 2017, Maître Bréham représente la famille Chouébar. Pour exactement ce que Anne a décrit, les faits précisément le bombardement sur le toit de leur immeuble. Ce que je vais vous exposer, je pense, ça répond. Enfin, c'est une des voies sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. Alors c'est d'un point de vue très juridique, mais le cas de la famille Chouébar, il est assez unique encore puisque c'est la première fois en France qu'on arrive à monter un dossier qui va jusqu'au pôle crimes contre l'humanité, donc il y a un pôle spécialisé dans les crimes de guerre du tribunal judiciaire de Paris, et on arrive à obtenir une instruction, donc une enquête par un juge spécialisé qui aujourd'hui se penche sur ce qui s'est passé et essaye de comprendre exactement toutes les implications, les responsabilités. Donc bien évidemment, la personne morale principalement visée, c'est la compagnie Excelia, puisqu'on est assez rapidement remonté à eux par les débris que vous avez pu voir en photo. Plus largement, c'est ce cas, il est assez innovant d'un point de vue à nouveau juridique, puisqu'en fait, c'est la première fois en France également qu'on pose la question de la responsabilité pénale des entreprises françaises qui vendent de l'armement. Comme ça a été expliqué précédemment, jusqu'à aujourd'hui, le principe c'était la vente d'armes, c'est plus ou moins interdit, sauf exception, sur autorisation du ministère des Armées. Je simplifie un peu, mais voilà. Et c'est très important comme point, parce que il faut bien avoir conscience quand on discute un peu avec les directeurs juridiques de ces entreprises, où on essaye de comprendre, un peu comme ce que vous avez fait, comment ça se déroule. L'argument principal, c'est « Ah, on est couvert, quoi qu'il arrive, puisqu'on a été autorisé par le gouvernement ». Donc ça, c'est peut-être vrai. En attendant, la France dispose d'une très grosse et volumineuse loi pénale. Et cette loi pénale, elle reprend notamment toutes les conventions internationales sur le droit international humanitaire, c'est-à-dire très basiquement le droit des conflits armés, le droit de la guerre. Et aujourd'hui, la plainte des Chouébar, elle repose là-dessus, c'est-à-dire quid de ce droit international humanitaire qui prohibe absolument et en toutes circonstances quasiment les attaques de civils dans le cadre de conflits armés. Donc ça, c'est vraiment la question principale dans le cas Chouébar. Et c'est une question qui se pose d'autant plus que, comme l'a expliqué Anne, le crime de guerre la poursuite est pour complicité de crime de guerre, puisque le crime de guerre remplit a priori, les faits présentent toutes les caractéristiques d'un crime de guerre, puisque dans le cas de la famille Chouébar, il s'agit bien de civils, puisqu'il s'agit d'enfants, donc ils ne sont absolument pas partis au conflit armé. Et de surcroît, c'est une attaque qui semble complètement disproportionnée, notamment quand on regarde les circonstances, c'est-à-dire que c'était un quartier assez calme de Gaza, c'était pendant un cessez-le-feu, il n'y a pas de cible militaire à proximité, c'est-à-dire il n'y en a pas dans la maison, mais il n'y en a pas non plus à proximité. Donc voilà, c'est de là-dessus que part la plainte. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que c'est en instruction. La dernière étape importante, c'était donc effectivement la venue à Paris de la famille Chouébar pour témoigner, puisque c'est très important dans le cadre d'une instruction que des victimes puissent être entendues. Il reste bien sûr encore des questions, mais c'est une instruction qui a déjà bien avancé. Et on peut espérer que, voilà, en tout cas, au moins, la question aura été posée de la responsabilisation et de la responsabilité pénale, vraiment, de ces entreprises, au-delà de toute considération, politique, qui serait de dire, on est couvert parce que le gouvernement l'a autorisé.
Ça marche.
Voilà, donc ça c'était pour ce qui est un peu de la particularité du Cachouébar. De façon plus générale, dans le cas où l'instruction, donc, très basiquement, une instruction, c'est donc une investigation par un, enfin une enquête par un juge, et à terme, le magistrat dans le Cachouébar va devoir décider si il estime le dossier assez solide, ou en tout cas que les soupçons contre Excelia sont plus qu'avérés. Dans ce cas-là, il décidera éventuellement de renvoyer l'entreprise devant un tribunal qui, lui, décidera in fine de la responsabilité ou non. Dans le cas où la responsabilité de l'entreprise serait reconnue, bah, vous imaginez bien que ça viendrait ouvrir un nombre de voies sur tous les sujets qu'on a évoqués ce soir, puisqu'en fait, littéralement, c'est un vide juridique actuellement. En France, ça n'a absolument jamais été fait. Et la question vraiment ne s'est jamais posée. Et donc dans le cas où un tribunal viendrait à condamner une entreprise d'armement française en lui expliquant, parce qu'en fait ça serait ça la motivation très probablement, ça serait oui, vous aviez une autorisation, mais vous aviez aussi le devoir de veiller à la bonne utilisation de vos armes. Alors il y a en vertu, comme disait Monsieur Bouvray, du TCA, mais il y a aussi le fait que... Bah, typiquement, dans le cas d'Israël, et notamment de façon plus générale pour la complicité, on ne requiert pas juridiquement que la personne qui se rend coupable des faits adhère à l'idéologie ou au projet de en l'espèce de la personne à qui ils ont vendu leurs armes. Donc, à partir du moment où il y a crime de guerre et il y a un acte de complicité, c'est-à-dire une fourniture d'aide, de moyens, prêter son concours à la commission de l'infraction, donc dans notre cas la vente d'une pièce, d'un composant de missile, qui est probablement pas le seul d'ailleurs, on peut, voilà, si un tribunal qui se baserait sur cette motivation arrive à la conclusion qu'on peut retenir la responsabilité pénale, ça ouvrira juridiquement une voie et vraiment un couloir, même j'ai envie de dire, pour questionner la responsabilité des entreprises d'armement. Et surtout, je pense d'un point de vue plus général, ils seraient assez emmerdés, excusez-moi le terme, et probablement qu'ils reverraient un petit peu leur stratégie et leur mode de contrôle, on va dire, dans leur vente d'armes. Enfin, ça constituerait un obstacle supplémentaire là où aujourd'hui il y en a quasiment pas, puisque l'exportation est vraiment soumise juste à une autorisation qui est une autorisation purement administrative.
Thank you.
Après les informations sur les ventes d'armes françaises et sur leur implication dans la guerre menée par l'armée israélienne en Palestine, et aujourd'hui particulièrement à Gaza, Laura, membre du collectif Stop Armes Israël France, va nous parler des actions qui pourraient être entreprises en France. Alors actuellement, la priorité serait par exemple de répondre aux syndicats palestiniens qui demandent un cessez-le-feu immédiat.
Donc cet appel, il ne faut pas oublier qu'il s'inscrit dans la tradition de solidarité internationaliste, anti-impérialiste et anti-guerre, qui est centrale à la base historiquement dans le mouvement ouvrier et syndical et qui devrait être à la base et revenir vraiment de façon centrale dans les mouvements sociaux. On peut citer les mobilisations syndicales contre l'offensive de l'Italie fasciste en Éthiopie dans les années 30, les grèves qui ont bloqué les envois d'armes de la France pendant la guerre d'Indochine en 1950, ou les mouvements de solidarité contre la dictature chilienne dans les années 70. D'ailleurs, les syndicats palestiniens, dans leur appel, ils citent ces exemples. C'est des exemples qui les inspirent dans cet appel international. Et ils disent eux-mêmes, la solidarité internationale est un levier pour limiter la brutalité coloniale. Donc rapidement, je vais vous juste évoquer quelques-unes des réponses internationales auxquelles l'appel des syndicats palestiniens a donné lieu. À ce jour, il y a plus de 40 syndicats et organisations de travailleurs qui sont référencés comme soutenant la campagne sur le site internet de Workers in Palestine, donc le groupement qui a lancé l'appel. Et ces organisations, elles sont issues d'une vingtaine de pays. Et ça a déjà donné lieu à de nombreuses actions partout dans le monde, donc des rassemblements, des blocages d'usines, des saccages de sièges sociaux, des blocages des ports et des bateaux qui convoient les armes. Donc là, on voit que c'est à la fois des syndicats et aussi des groupes d'activistes qui s'emparent de cette campagne, de ce mot d'ordre, et qui passent à l'action concrète sur le terrain pour essayer de bloquer ces envois d'armes. En France, sur le plan des syndicats, la campagne, elle a d'abord été reprise et diffusée par des syndicats d'enseignants. La tendance intersyndicale émancipation, ça a été la première à rejoindre et relayer l'appel, et ensuite ont suivi la FSU, le SNES et Sud Éducation à l'échelle nationale. Et le 26 janvier, on a été ravis d'apprendre que Solidaire, l'Union syndicale Solidaire, a pris position à l'échelle nationale et a publié un texte pour dire qu'il soutenait la campagne Stop Arming Israël et qu'il soutenait l'appel des syndicats palestiniens. Donc Solidaire, c'est près de 100 000 syndiqués dans de nombreux secteurs en France, dont celui de l'armement. Et on espère que ça va donner lieu à des mobilisations concrètes et peut-être aussi donner l'exemple à d'autres syndicats. Parce qu'à part Solidaire, après près de 4 mois après l'appel des syndicats palestiniens, qui je rappelle date du 16 octobre, les grandes confédérations syndicales comme CGT et FO n'ont pas pris position et ont ignoré, disons, l'appel, n'ont pas mentionné, n'ont pas rebondi dessus, ne l'ont pas relayé. Donc on constate qu'en France, les répercussions syndicales, elles laissent vraiment à désirer. On aimerait des vraies prises de position, des prises de position claires des grandes forces syndicales à l'échelle nationale, parce que c'est une campagne qui est pourtant évidente, qui devrait être évidente pour les syndicats, de dire en tant que travailleur, voilà, cette question des envois d'armes, c'est pas possible. Et un appel de syndicalisme palestinien, c'est du pain béni, entre guillemets, pour les syndicats qui devraient se positionner par rapport à ça. Donc face à ce constat, Stop Arming Israël France, on s'est formé en tant que collectif pour diffuser la campagne en France, diffuser l'appel des syndicats palestiniens et aussi permettre au plus grand nombre de s'en emparer, qu'on soit en passant par les syndicats ou non. On n'est pas, en fait, le but c'est de ne pas attendre que les grandes forces syndicales, que les grandes organisations se bougent par rapport à cet appel, et c'est qu'on s'organise nous-mêmes. Donc c'est vrai que d'un côté, on a la possibilité donc d'interpeller les élus, de demander à l'État de cesser d'accorder des licences d'exportation. Malheureusement, en ce moment, en France, on voit à quel point on est écouté par la représentation nationale. Il y a bien quelques députés de la France insoumise qui ont essayé de poser des questions au gouvernement sur ces histoires d'exportation d'armes. Est-ce qu'on exporte des armes vers Israël, etc. Bon, on voit que ça donne assez peu de réponses pour l'instant de la part du gouvernement. Il y a un article Mediapart qui est sorti il n'y a pas longtemps qui citait le ministère des Armées qui disait « Non, la France ne vend pas de matériel létal qui pourrait être utilisé contre des civils à Gaza. » Mais en même temps, oui, il y a 9 millions d'euros en 2022 qui ont été accordés comme licence qui concerne la catégorie missiles, explosifs, etc. Donc on se demande comment les missiles peuvent être non létaux pour les civils. Donc voilà, ces millions d'euros dont nous parlait Patrice, même s'ils ne sont pas des millions énormes, ils continuent quand même d'être accordés par l'État. Donc, d'un autre côté, il y a l'aspect juridique, comme on a pu en entendre parler avec l'affaire Exxelia, la possibilité de poursuivre en justice les entreprises et les États lorsque les ventes qui sont faites enfreignent le droit international. Et cette approche, elle est aussi renforcée par la décision de la Cour internationale de justice récente, le 24 janvier, qui a déclaré le risque de génocide plausible. Donc la responsabilité des entreprises, elle peut être engagée. Mais bon, tout ça, c'est des procédures qui sont assez longues, comme on l'a vu avec l'affaire Exxelia, justement. C'est des choses qui se passent souvent sur un temps long, après avoir pu récolter des preuves, après que les choses se soient passées, entre guillemets. Donc c'est des choses qui demandent des compétences spécialisées, un travail d'enquête sur le terrain pour réunir les preuves. Par exemple, là, il y a eu la, entre guillemets, chance de pouvoir trouver la pièce avec marqué France dessus. Là, en ce moment, la situation à Gaza est telle que, voilà, je pense que ce travail-là, il doit être compliqué, mais il peut commencer à être fait. D'ailleurs, on est en contact avec des collectifs d'avocats et de juristes qui veulent travailler sur le sujet et qui veulent aussi, par exemple, justement, essayer de former les personnes sur place, les médecins, etc., à collecter des preuves pour pouvoir, par la suite, éventuellement faire des poursuites. Donc ça, c'est un travail, voilà, on essaye de, nous, on se met un peu à la disposition avec le peu d'informations qu'on peut avoir des collectifs de juristes, etc., pour aider là-dessus, mais c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a pour l'instant pas trop de levier. Voilà, si vous avez si vous faites partie d'un collectif qui veut travailler sur ce plan-là ou que vous êtes intéressé par ce plan-là, n'hésitez pas aussi à nous contacter et on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais ensuite, voilà, nous, en tant que Stop Arming Israël France, on a décidé stratégiquement, face à l'urgence de la situation, d'essayer de viser directement les entreprises d'armement et de s'adresser aux travailleurs de ce secteur. Ce qu'on veut, c'est s'attaquer directement aux conditions matérielles de ce génocide. Donc, pourquoi s'attaquer aux entreprises elles-mêmes ? Le secteur de l'armement en France, vous l'avez compris, c'est un poids économique énorme. La France, c'est le troisième exportateur d'armes au monde. En France, il y a près de 2000 entreprises d'armement et en lien avec la défense et une dizaine de grands groupes qui brassent des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Au total, c'est plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans tout le secteur. Et dans toutes ces entreprises, bien sûr, il y a des travailleurs. En 2018, le ministère de la Défense des armées évoque 200 000 emplois dans le tissu militaro-industriel français et des emplois, entre guillemets, de haute technicité et non délocalisables. Donc on peut penser qu'il n'y a pas grand-chose qui est fabriqué encore en France en 2024, mais c'est faux. Il y a encore des choses qui sont fabriquées en France et des techniciens très spécialisés qui travaillent sur des choses qui ne sont pas faites ailleurs, et des ingénieurs également. Et dans certaines régions, le secteur de la défense, ça représente plus de 7% des emplois industriels, donc c'est énorme. Et pour que ces entreprises, elles, fonctionnent, pour que le matériel militaire fourni à Israël y soit produit et que les partenariats avec les entreprises israéliennes continuent, les entreprises, elles ont besoin que ces travailleurs travaillent. De l'ingénieur qui conçoit les armes à l'ouvrier qui les fabrique, sans cette force de travail, le système entier s'effondre. Donc sur ce constat, nous, on a décidé d'organiser notre activité autour de plusieurs axes. D'abord, on a un axe de recherche et diffusion des informations. Donc là, on fait tout un travail pour essayer de trouver un maximum d'informations sur les entreprises d'armement et leur collaboration avec Israël. On s'est notamment pas mal basé sur le travail de Patrice et les brochures qui ont déjà été produites par l'Observatoire des armements sur le sujet. Et donc ça concerne à la fois les grands groupes, donc pour citer quelques noms, Thales, Safran, Dassault, Nexter, MBDA. Toutes ces énormes entreprises d'armement, elles sont toutes impliquées d'une façon ou d'une autre dans un commerce avec Israël, dans des échanges qui sont gagnants-gagnants des deux côtés. Ensuite, il y a aussi tout un tas de sous-traitants, de fabricants de composants à double usage, donc on a pu citer Exxelia. Il y en a d'autres, on les connaît moins parce que forcément c'est moins médiatisé, c'est des entreprises assez anonymes. Et ensuite, il y a des toutes petites entreprises, des PME vraiment, comme par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle PGM Précision qui fabrique des fusils de précision et qui vend ses fusils directement à Israël. On peut penser que c'est pas grand-chose, ils vendent 5 fusils par an, quelque chose comme ça, et malgré tout, ces fusils, ils sont utilisés par les snipers israéliens. Donc nous, on travaille à partir de sources publiques, d'articles de presse. On est des militants qui n'étaient pas du tout dans le domaine de l'armement, qui ne connaissaient pas du tout ce secteur. Donc on a lu tout un tas d'articles de presse, des communiqués des entreprises. Les sources institutionnelles, comme le rapport au Parlement et sur les exportations d'armes, elles ne donnent pas vraiment le détail des entreprises concernées et du matériel précis qui est vendu. Donc, et les bases de données réunies par les ONG, elles ont du mal à rendre compte aussi de tout ce qui est partenariat entre les entreprises, échange de technologies, tout ce qui ne se matérialise pas directement par des ventes. Donc nous, on essaie de compiler un maximum d'informations depuis ces sources directes et de les rendre intelligibles pour le grand public, parce que tout ça, c'est des domaines très techniques que nous-mêmes, on a eu du mal à comprendre au début et on commence à appréhender un petit peu. Et en ce moment, on travaille à la production d'une brochure avec des fiches entreprise par entreprise pour synthétiser tous les liens avec Israël qu'on a trouvés. Donc ça, ça permettra ensuite, on espère, pouvoir le diffuser au maximum auprès de la presse, des associations, etc. Donc ça pourra peut-être aider justement les actions juridiques, mais aussi les actions, enfin le fait de médiatiser cette question, et peut-être aussi s'il y a des personnalités politiques, des parlementaires qui ont envie de s'emparer de ce sujet, on espère vraiment fournir quelque chose de récent et à jour avec un maximum d'informations. Donc ensuite, on a commencé à faire une cartographie pour localiser toutes ces entreprises, parce que bah, toutes ces entreprises, c'est tous ces tas de travailleurs, et bah, ils travaillent partout autour de chez nous, en fait. Les entreprises complices, elles sont implantées un peu partout en France. Donc on a commencé à recenser les sites, à regarder un peu ce qui est fait, combien de personnes y travaillent, et on a mis au point, on a mis en ligne une carte interactive. Là, vous voyez sûrement la carte à l'écran. Chaque couleur correspond à une entreprise. Je crois qu'en vert, il y a Safran, en rouge, il y a Thales, et après, il y a tous les autres, quoi. Et vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de points. En fait, on en a déjà près de 170. Toutes ces implantations, elles ne sont pas forcément directement impliquées dans la fourniture de matériel à Israël, mais c'est toutes les implantations de ces entreprises qui, elles, ont un lien ou une complicité avec Israël. Donc, en cliquant aussi sur les points, vous pouvez retrouver les informations plus détaillées, et ça, vous pourrez le retrouver sur Internet via, si vous avez récupéré le petit tract où il y a tous nos contacts, réseaux sociaux, etc., vous retrouverez facilement le lien vers la page de ressources sur laquelle on a mis ça en ligne. Et notre but, c'est de fournir un outil aux militants pour passer à l'action et pour visualiser où ils pourraient agir et aller. Et comme ces vendeurs de morts, ils sont vraiment partout autour de chez nous, on a à peu près dans toutes les régions de France des endroits où les militants pourraient se déplacer pour se mettre en action. Et donc ces actions, bah, il y en a plusieurs types. Donc nous, on a commencé à participer à des actions visibles. Donc le but de ces actions visibles, c'est d'exposer, de perturber et de bloquer ces entreprises. Donc dans un premier temps, les afficher, tout simplement, leur faire de la mauvaise pub et leur mettre la pression, parce qu'un rassemblement de militants avec des drapeaux palestiniens, etc., devant la porte, et ben, s'il y a des médias qui le diffusent, etc., ben déjà, ça va faire parler. Et comme ils tiennent justement à montrer une bonne image, d'ailleurs, ils se vendent des entreprises éthiques, innovantes, excellentes, et ben, déjà, s'attaquer à leur image, ça a un poids. Ensuite, venir faire ces actions, ça permet de perturber le travail, d'être une nuisance et du coup d'avoir un impact économique. Parce que lors d'une action où il n'y a que même seulement 10 à 20 personnes qui se rassemblent devant un site avec des banderoles, des fumigènes et un mégaphone, bah, mine de rien, la sécurité du site, elle est obligée de fermer les portes, éventuellement de mettre le travail à arrêt le temps de l'action. Et même une action rapide qui ne dure que 20 minutes peut perturber le bon fonctionnement du site. Et en plus, ça a l'avantage de mettre toutes les entreprises en alerte. Ils savent pas, ils savent qu'ils peuvent être visités à tout moment. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont être pris pour cible. Et du coup, ils sont en ce moment même tous un petit peu tendus. Donc pour ce type d'action, on met en place des choses au niveau de la lutte contre la répression, bien sûr. On est en lien avec la Legal Team à Paris. Il y a des avocates qui nous accompagnent. Et on essaye de se former à l'anti-rep pour limiter au maximum les risques pour les militants. Et bien sûr, ce type d'action, elles ne peuvent pas être annoncées publiquement, parce que sinon, elles seraient empêchées directement par la police. Donc il faut jouer avec l'élément de surprise, tout en essayant d'être aussi nombreux que possible. Et il y a différents groupes qui organisent des actions comme ça, disons coup de poing, en région parisienne comme en province. C'est souvent organisé en communiquant de proche en proche. Donc pour ça, il faut vraiment créer un réseau. Et donc ces actions-là, elles sont encore pour l'instant d'une portée assez symbolique, mais à terme, l'idéal et l'utopie, entre guillemets, serait de bloquer la production. Là, l'impact, il pourrait devenir extrêmement concret si on parvient à ralentir ou bloquer la production du matériel pendant plus que quelques heures. Mais pour ça, pour avoir vraiment un impact plus profond que bloquer quelques heures par quelques activistes, on a besoin des travailleurs, des entreprises. En fait, nous, on est aussi plusieurs dans ce collectif à avoir participé pendant les réformes des retraites aux grèves et aux piquets de grève et aux blocages, par exemple, des incinérateurs d'ordures qui ont permis de vraiment perturber fortement le cycle de la gestion des ordures à Paris, et nous on est plusieurs à l'avoir constaté. S'il y a quelques activistes qui viennent essayer de bloquer, en l'occurrence un incinérateur d'ordures, mais ça pourrait être la même chose sur une usine, bon, il peut y avoir un petit impact, mais si les travailleurs du site sont en grève, ça change tout. Ça change tout vis-à-vis de la police, ça change tout vis-à-vis de l'impact, ça change tout vis-à-vis de la nuisance envers l'entreprise, et c'est vraiment la seule façon de d'avoir un impact profond et de vraiment bloquer la production des armes, en l'occurrence. Donc pour pouvoir avoir cette solidarité des travailleurs, on a besoin de les mobiliser. Donc mobiliser les travailleurs du secteur, pour nous, ça passe en premier lieu par le tractage. Et le tractage, c'est un travail de sensibilisation. Nous, on va vers eux, on discute avec eux pour essayer de leur montrer qu'ils sont concernés, qu'ils ne sont pas seulement une petite pièce dans la machine, et qu'ils peuvent agir s'ils se sentent concernés par la cause palestinienne. Et plus souvent qu'on le croit, ils se sentent concernés. La plupart des gens ne sont pas forcément... c'est pas parce qu'ils travaillent dans une entreprise de la défense qu'ils sont d'accord pour que les armes soient utilisées pour tuer des milliers d'enfants à Gaza. Donc notre action de tractage, le fait d'aller au-devant de ces travailleurs, ça permet de créer vraiment un sujet autour de la question, de les inciter à parler entre eux, à poser des questions à leurs supérieurs, parce que même souvent, ils n'ont pas forcément toutes les infos. C'est pas parce qu'on travaille chez Thales qu'on est au courant de tous les liens que Thales peut avoir avec l'armée israélienne. Et donc ça crée de l'agitation dans l'entreprise, ça crée un sujet, c'est un travail qui est long, mais pour que ces travailleurs puissent s'emparer de la question, il faut petit à petit, conversation par conversation, qu'ils en parlent entre eux. On a créé un tract spécifique adressé aux travailleurs, dont le ton qu'on emploie pour s'adresser à eux, il n'est pas hostile. On vise plutôt à les impliquer, leur montrer qu'ils peuvent agir et à créer de la solidarité. On essaie aussi de parler aux syndicats. Souvent, on entend dire que les syndicats du secteur de l'armement, et plus généralement les syndicats, ils aimeraient bien agir sur cette question d'arrêter d'armer Israël, mais ils ont peur que les travailleurs ne suivent pas. Bah, c'est sûr que les travailleurs ne suivront pas si personne ne les implique, si personne ne va leur en parler, si on n'en crée pas un sujet. Donc nous, on veut aussi aller contacter les syndicats actifs sur chaque site, comme on a pu le référencer sur la carte, parce qu'il faut savoir que sur tous ces sites, en général, il y a un représentant syndical CGT, un représentant syndical FO, un représentant syndical CFDT, et ainsi de suite. Nous, on a déjà pu voir que nos opérations de tractage qu'on a déjà commencé à mener depuis plusieurs semaines, elles ont un impact. On a déjà reçu des mails de travailleurs qui nous disent « bah merci d'être venu devant mon entreprise, moi je me sens concerné, je ne sais pas trop comment je peux vous aider, mais voilà ». On a aussi eu des mails de syndicalistes qui nous disent « ah, j'ai appris que vous êtes venu tracter devant l'entreprise, bon, moi je suis à la CGT, je suis solidaire du peuple palestinien, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Et tout ça en réaction à notre présence. D'ailleurs, en général, les travailleurs, quand on vient devant les usines d'armement, on pourrait croire qu'ils sont super hostiles. Bah, pas forcément. Ils sont plutôt, d'abord, dans un premier temps, interloqués, surpris de notre présence et souvent assez favorables, polis du moins, et en tout cas, même pour certains, carrément positifs et nous remercient d'être venus. On arrive à discuter avec eux. Bon, il y en a qui passent rapidement. Il y a toujours des, bien sûr, je vais pas vous mentir, il y a toujours des excités. Il y a toujours des gens qui vont dire vous soutenez le Hamas, mais on a aussi beaucoup de gens qui prennent le temps de discuter avec nous. Et à chaque fois qu'on est allé devant un de ces sites, on a pu distribuer des centaines de tracts à des centaines de travailleurs. Du coup, voilà. Donc les travailleurs, ils sont plutôt favorables à notre présence. Par contre, ceux qui sont pas favorables à notre présence, c'est les directions. L'opération de tractage, c'est une nuisance, encore une fois, envers les entreprises. À chaque fois, ils sont obligés de mettre toutes leurs équipes de sécurité en alerte. Il y a toute la sécu qui est devant, qui nous regarde tracter et qui se sent obligé de rester jusqu'à ce qu'on parte. Donc dès qu'on arrive, ils nous demandent « Vous allez rester combien de temps ?» parce qu'ils aimeraient bien pouvoir partir. On sait aussi qu'à chaque fois, la direction des entreprises envoie des mails à tous les travailleurs pour leur dire qu'on est là et de faire attention. Attention aux méchants militants qui pourraient venir vous parler. Bon, en vrai, on n'est pas très méchant et on parle assez poliment à tous les travailleurs, il n'y a pas vraiment de problème. Mais au final, ces mails que la direction envoie, ça nous fait de la pub parce que tous les travailleurs à qui on n'aurait pas pu donner un tract, qu'on n'aurait pas croisé, qui étaient en télétravail, ils ont un mail qui leur dit « il y avait Stop Arming Israël devant l'entreprise ». Donc ils vont se dire « déjà, c'est quoi cette histoire de Stop Arming Israël ?» Donc déjà, ces mails des entreprises, ils nous font de la pub. Et on a aussi, de plus en plus souvent, une forte mobilisation policière, et voire même les renseignements qui viennent surveiller nos tractages. Nous, comme on annonce nos tractages publiquement, sur les réseaux sociaux, par mail, etc., On sait qu'ils le savent d'avance, ça on nous l'a dit, les travailleurs nous l'ont dit, les mecs des renseignements nous l'ont dit. Donc on arrive sur place, il y a 2 voitures de police, il y a 15 policiers, il y a 4 agents des renseignements territoriaux qui sont là, qui vont rester plantés là avec nous pendant 2 heures, éventuellement essayer de nous parler. Bon, on discute plus ou moins avec eux selon les gens, mais on essaie d'éviter de trop leur parler aussi quand même. Et éventuellement, ils vont aussi parfois faire un contrôle d'identité, donc ça dépend des fois. Ça ne nous empêche pas de tracter, parce que le tractage, c'est légal. C'est pas un rassemblement non déclaré, c'est autorisé, on a le droit de faire un tractage sans déclaration préalable. Donc ils peuvent pas nous en empêcher. Donc ça, c'est important, quand on fait ce genre de choses, de connaître ses droits, de savoir qu'on peut aller distribuer des tracts. C'est pas parce qu'on est devant une usine d'armement que c'est différent de tracter sur un marché, ou même, on se disait en rigolant, c'est pas très différent des témoins de Jéhovah qui essayent de vendre leurs livres sur la place publique. Nous, on a le droit d'être là et d'essayer de distribuer des tracts aux travailleurs. Et donc c'est important de le savoir pour pas être intimidé par cette présence policière. Et nous, au final, on se dit même que cette présence policière, c'est presque une bonne chose, parce que ça rend notre présence plus visible, plus mémorable pour les travailleurs. Ils disent, c'est quoi ce bazar? Il y a 4 voitures de flics devant l'usine, et tout ça pour les cinq militants qui sont là en train de distribuer des feuilles de papier. Donc ça nous indique aussi que les directions sont donc dérangées par notre présence et pas sereines, et pareil, que les services de l'État sont quand même assez alertés par cette action. Donc on sait que c'est, et d'ailleurs on sait que c'est les entreprises qui demandent aux policiers d'être plus ou moins présents. Ça, les policiers nous l'ont dit comme ça, que c'était ah oui, bah là quand même ça franc en ce moment, ils ont été visés plusieurs fois, donc ils nous ont demandé d'être là pour vous surveiller. Donc les policiers, souvent, ils préfèrent ne pas être là parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils servent à rien. Mais les entreprises leur demandent, s'il vous plaît, venez surveiller les gens qui tractent. Donc pareil, la police est un peu au service des entreprises dans ce cas-là.
Nous sommes à la fin de notre émission. Il me reste à remercier les organisatrices et les organisateurs de la réunion Stop Armée Israël France. Réunion qui s'est tenue le 12 février 2024 à la Bourse du Travail de Paris. Le public était particulièrement nombreux dans la salle Jean Jaurès et des tracts ont été distribués à la sortie. Alors voici un petit peu ce qui était marqué sur ce tract. Tu veux aider les Palestiniens, point d'interrogation, rejoins-nous pour désarmer Israël. Et il est dit en début du tract, plus de 50 syndicats palestiniens ont lancé le 16 octobre l'appel Stop Arming Israël. Dans ce texte, ils appellent les syndicats à l'échelle internationale à, premièrement, refuser de fabriquer des armes destinées à Israël, deuxièmement, refuser de transporter des armes vers Israël, ensuite, adopter des motions à cet effet au sein de leur syndicat, prendre des mesures contre les entreprises complices qui participent à la mise en œuvre du siège brutal et illégal d'Israël, en particulier si elles ont des contrats avec leurs institutions, et enfin faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent tout commerce militaire avec Israël. Alors nous avons entendu bien sûr dans cette émission Patrice Bouvray de l'Observatoire des armements, Anne Pack, journaliste et photographe, et Laura, membre du collectif Stop Armement Israël France. Alors pour contacter le collectif, je vous rappelle l'adresse mail. Alors je vous l'appelle Stop, tout attaché, Stop Arming Israël France. Stop Arming Israël France, tout attaché, @proton.me. Et maintenant, il me reste à vous dire au revoir. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.
Appelle au secours. Pardonne-moi, Palestine. Je vis dans le rire, toi les ruines. Je cours après l'argent. tu pries pour voir grandir tes enfants. Je ne suis pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur. Lâche, oui, je suis, lâche, oui, je suis. Pardonne-moi, Palestine. Eh, enfoiré, tu m'écoutes, posé devant ton PC, tu me dégoûtes. Comme moi t'es un lâche, y'a plus de doute. La Palestine se bat, ouais, mais sans nous. Tu laisses tes frères tomber un par un. Tu vas partager des foutus liens afin de te sentir plus concerné. Au final tu te diras, je ne suis pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur. Lâche, oui je suis, lâche, oui je suis. Pardonne-moi Palestine. Je ne suis pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur. Lâche, oui je suis, lâche, oui je suis. Pardonne-moi Palestine. Ne fuis pas ce que j'ai à dire. Des milliards de musulmans se disant dans le dîme. À quoi tu joues, à quoi je joue. Qui les aide racistes n'est pas nous. Je n'ai plus qu'une chose à dire. Je ne suis pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur. Lâche, oui, je suis, lâche, oui, je suis. Pardonne-moi, Palestine. Je ne suis pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur. Lâche, oui, je suis, lâche, oui, je suis. Pardonne-moi, Palestine. Je suis qu'un lâche parmi tant de lâches. Je te vois partir de jour en jour, mais je ne réponds pas à tes appels au secours. Pardonne-moi, Palestine. Je vis dans le rire, toi dans les ruines. Je cours après l'argent. Tu pries pour voir grandir tes enfants. Je ne suis pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur. Lâche, oui, je suis, lâche, oui, je suis. Pardonne-moi, Palestine. Je ne suis pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur. Lâche, oui, je suis, lâche, oui, je suis. Pardonne-moi, Palestine.
Temps plat, désagréable, d'autres riches et exaltants. J'étais souvent seule. Solitude qui m'a fait percevoir et analyser toutes les minutes. Ces moments forts, ces moments faibles créent une dynamique d'accent qui m'est restée.
Jazz Lib, et voilà, enfin de retour dans les studios en direct. Vous avez eu droit à beaucoup d'émissions ces derniers temps, mais enregistrées pour diverses raisons techniques que je ne vais pas vous expliquer ici, mais enfin voilà, vous avez quand même eu beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, mais là, de retour dans les studios en direct. Donc, numéro du studio, si vous voulez appeler, alors n'appelez pas pendant que je parle, hein, ce sera, sinon ça va être compliqué, 01 43 71 89 40. Vous avez l'obligation d'aller sur le site de la radio pour télécharger la souscription. Nous avons besoin de votre soutien et je remercie tous ceux qui nous soutiennent. Tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent. Vous avez l'ensemble des programmes, l'agenda, le podcast va disponible pendant 12 mois après la fin de la diffusion des émissions. En sachant que sur le site de la radio, Jazz Lib est en deux parties pour des raisons pareilles techniques un peu complexes à vous expliquer. Vous avez ma page Facebook Yves Jazz Lib sur laquelle je mets l'ensemble des informations, la playlist, les pochettes des albums si vous avez besoin d'informations. dk51@sfr.fr pour avoir des informations musicales, n'hésitez pas. Et que vous dire d'autre, Laurent à la technique qui est de nouveau revenu parmi nous et on essaye d'éviter les miaulements. Voilà, donc vous êtes sur Radio Libertaire, c'est Jazz Lib et vous êtes en direct des studios pour la suite des nouveautés. Et puis tout à l'heure, je vous ferai une annonce voilà, sur quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, revenons à nos moutons qui swingent. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé et passé de nombreux extraits d'un album qui s'appelle Taking the Plunge de Malo Mazurier. Alors, Taking the Plunge, c'est-à-dire prenez la sourdine de plunge, c'est, vous savez, cette espèce de sourdine en forme de truc pour déboucher les éviers, voire autre chose, et qu'on utilise comme sourdine pour les instruments à embouchure, comme les trombones, trompettes et autres... et autres trompes. Et donc, Malo Mazurier a eu cette idée, non pas sautée grenue, mais rigolote, de reprendre d'anciens thèmes du tout début du jazz, hein, comme Jelly Roll Morton, Biggs Beiderbecke, Duke Ellington, etc., etc. Alors, c'est une démarche... Au début, je pensais qu'il y avait... quelque chose